Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Bertille Bourdon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, réalisée par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Jérémy Kaufmann. Comme chaque vendredi, notre séquence Retour de terrain dédiée au reportage avec aujourd'hui Timur Öztürk qui revient d'Iran et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
À nos côtés, comme chaque vendredi, pour animer la discussion, nous parlerons ce matin du Portugal où se tient dimanche un scrutin important des législatives anticipées suite à la démission du Premier ministre António Costa déclenchée par une enquête pour corruption. Après 8 années au pouvoir et malgré un bilan économique plutôt positif, les socialistes sont au coude à coude avec la droite qui espère faire son grand retour, tandis que le tout jeune parti Chega d'extrême droite entend bien poursuivre son ascension. Alors que seront célébrés en avril les 50 ans de la révolution des œillets, le Portugal s'apprête-t-il à tourner une page politique de son histoire? Nous en discuterons avec nos invités. Yves Léonard, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Culture Monde. Vous êtes historien, spécialiste du Portugal, enseignant et membre du Centre d'histoire de Sciences Po, auteur notamment de Histoire de la nation portugaise chez Talendier, et puis apparaître le 18 avril, Salazar, le dictateur énigmatique, et ça c'est chez Perrin. Et à distance depuis Lisbonne avec nous, Victor Pereira, bonjour. Victor Pereira nous rejoindra tout à l'heure, qui est historien à Lisbonne, chercheur à l'Institut d'Histoire Contemporaine de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place à notre retour de terrain. Bonjour Timur Öztürk.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste à France Inter et vous revenez d'Iran. L'Iran, un pays devenu très difficile d'accès depuis la répression qui s'est abattue sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté, déclenché à la suite de la mort de Mahsa Amini en 2022. Mais à l'occasion des élections législatives qui se tenaient le 1er mars, les autorités ont autorisé quelques reporters à entrer sur le territoire dont vous avez fait partie. Un scrutin sans surprise et qui a confirmé la mainmise des conservateurs sur les institutions comme sur l'ensemble du pays, mais qui vous a permis, Timur Öztürk, de tendre votre micro aux Iraniennes et Iraniens, 1 an et demi après le mouvement de révolte porté notamment par la jeunesse. Ils vous ont confié leur amertume, leur colère et surtout qu'il n'était pas question pour eux de participer à ces élections. Et d'ailleurs, la participation, c'était l'un des enjeux de ce scrutin pour le régime. A-t-elle finalement été au rendez-vous? Quel a été le taux d'abstention officiel finalement donné par les autorités?
Alors, on parle de taux de participation en Iran. On retourne les choses dans ce sens-là. Officiellement, il est de 41%. Ce taux de participation à l'échelle nationale, donc pour des élections législatives et pour l'élection de l'Assemblée des experts, qui est un autre organe qui est chargé notamment d'élire le guide suprême en cas de décès du guide en place. 41%, c'est un record faible, c'est un record finalement d'abstention dans le pays depuis la révolution islamique. On était, il y a 4 ans, lors des précédentes législatives, à un peu plus de 42%. C'était déjà très faible pour l'Iran. Donc, on est dans un score assez faible qui colle aux dernières législatives. Bien sûr, du côté des gens qui contestent le régime, il y a aussi une contestation de ces chiffres qu'on estime gonflés. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y a une large part même de votes blancs parmi ces votes qui ont été exprimés, à tel point que, par exemple, pour Téhéran, qui est l'un des districts où on a le moins voté, là on parle plutôt de 25% de participation, le quorum n'est pas atteint pour élire l'ensemble des députés de la capitale. Donc on a plus d'une dizaine de députés qui vont devoir être élus lors d'un second tour.
Cette abstention, le régime la redoutait et il y avait, on a entendu, enfin les Iraniens, les Iraniennes ont entendu des discours qui appelaient à voter et qui appelaient à voter au nom de la défense du pays. Est-ce que c'est un discours qui a porté auprès des électeurs?
Je pense qu'il a porté auprès des personnes convaincues. En tout cas, on l'a beaucoup entendu sur place, avec aussi des campagnes d'affichage. On parlait même pas du programme des candidats. On parlait de, en effet, défense de l'Iran, d'apporter une réponse aux États-Unis, aux méchants, à l'ennemi, parce que finalement, autour de cette participation, de cette abstention, l'enjeu, c'est celui de la légitimité du régime, qui est contesté, on l'a vu, lors des manifestations en 2022, qu'il était déjà avant sur des bases plutôt économiques en 2019 sur les prix de l'essence. À chaque fois, ce sont des mouvements sociaux très réprimés. Bien sûr, la grille de lecture du pouvoir, du régime, c'est que ces manifestations sont alimentées, soutenues, ou du moins que l'étranger en tirera profit d'une manière ou d'une autre, et que par le vote, les Iraniens devaient faire bloc, devaient montrer leur attachement à la République islamique. Le guide lui-même l'a beaucoup répété pendant les derniers jours de la campagne, en disant clairement que c'est une réponse à apporter aux ennemis de l'extérieur. C'est un discours qui a convaincu, les convaincus, la base conservatrice, voire ultra-conservatrice, mais qui n'a aucune portée parmi ceux qui ont manifesté.
Et parmi eux, parmi ces jeunes que vous avez rencontrés, comme Ali, 24 ans, et Daria, 20 ans, une ancienne manifestante, eh bien, il était hors de question de voter.
Moi non, je ne vais pas voter. Ce sont tous les mêmes. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ne pensent qu'à leurs proches et deviennent des privilégiés. Et nous, le peuple, on a les poches vides.
Jamais. C'est hors de question. Je ne reconnais pas la légitimité de ce gouvernement. Et je ne me rendrai pas complice du sang versé l'année dernière.
Pour ceux qui ont manifesté, comme Daria qui a témoigné à votre micro, est-ce que d'une certaine manière il n'y a pas de retour en arrière après avoir vu ses proches arrêtés, tués ? Est-ce que même si le régime changeait de représentant, il n'y a pas de réconciliation possible ?
Ce qui est intéressant avec, en l'occurrence, cette étudiante, Daria, faut se dire qu'elle a 20 ans, on l'a rencontrée à la sortie de l'université, donc on est en plein Téhéran. Mine de rien, c'est une société où il y a beaucoup de surveillance policière. Elle a osé répondre au micro assez facilement. Et moi, je lui ai demandé, mais est-ce que vous n'avez pas peur de parler, de répondre ? Elle m'a dit, écoutez, moi, j'aurais dit en face ce que je pensais. Et j'ai été arrêté, donc j'ai plus peur. Et il y a cette forme, en effet, de rupture, de dire, de toute façon, qu'est-ce qui reste à perdre ? Alors elle a manifesté notamment sur la question du voile. Elle raconte qu'elle a été arrêtée. Elle ne raconte pas ce qu'elle a vécu en arrestation. Elle dit qu'elle n'arrive pas à le raconter. Cette jeunesse-là, oui, elle semble en rupture totale. Il ne faut pas leur parler des modérés ou des réformateurs qui n'inspirent pas un grand espoir non plus. Une partie des réformateurs ont été empêchés de se présenter aux élections, à l'Assemblée des experts et aux législatives. Le plus connu, c'est tout simplement Hassan Rouhani, l'ancien président qui a été empêché de se présenter. On peut penser aussi à Ahmadinejad, qui est conservateur, mais qui n'est plus dans les petits papiers de son propre camp. En tout cas, ces réformateurs comme Hassan, ou plutôt un modéré comme Hassan Rouhani, ils ont été empêchés pour certains de se présenter. Ils ont appelé au boycott pour certains des élections. S'ils avaient pu se présenter, il n'est pas certain non plus que cette jeunesse aurait voté pour eux. Il y a quand même un dégoût un peu général. Rouhani lui-même a déçu lors de son mandat, à partir de 2018, quand l'accord sur le nucléaire s'est effondré et que l'économie s'est effondrée avec.
Une partie des modérés se sont abstenus ou ont appelé au boycott, mais il y en a quand même certains comme Ali Motahari, que vous avez rencontré, tête de liste du mouvement Voix de la Nation, qui espérait peut-être récupérer certaines voix de cette jeunesse à la fois désabusée et meurtrie. Qu'ont-ils de fait proposé à ces électeurs qui se sont opposés au pouvoir, et jusqu'où vont-ils dans la critique du pouvoir des conservateurs?
Je dirais, mais c'est peut-être un peu dur avec eux, qui ne vont pas forcément très loin, en tout cas qui connaissent la limite à ne pas dépasser dans ce cadre-là, qui est la République islamique d'Iran. Il faut se dire que ces modérés, voire ces réformateurs, ce sont pas des gens qui sont hostiles à la République islamique, à ce régime. C'est une frange, un camp politique.
Qui reste dans le cadre.
Oui, qui reste dans ce consensus national et religieux en l'occurrence. Donc ils ne proposent rien de très radical. Même des figures réformatrices peuvent dire leur attachement au voile obligatoire, par exemple. Là où ils vont apporter une nuance, qu'ils vont dire qu'ils trouvent qu'on est allé trop loin dans la répression, qu'il faut être tolérant avec les jeunes, qu'il faut qu'il y ait un débouché pour leur colère et leurs espoirs, et qu'ils veulent incarner ce débouché. S'ils s'adressent plus directement à eux, c'est finalement pour leur dire, écoutez, avec nous, ce sera peut-être un peu moins pire, c'est important qu'il y ait une représentation un peu différente au sein du Parlement. Après, je pense qu'ils sont conscients aussi de la désaffection totale d'une partie de la jeunesse et qu'ils n'espéraient pas mobiliser énormément.
On le disait tout à l'heure, l'Iran est resté fermé durant de longs mois aux journalistes étrangers. Dans quelles conditions avez-vous pu obtenir un visa et surtout dans quelles conditions avez-vous pu travailler en Iran ?
Alors ça a été étrangement très simple d'obtenir un visa avec une demande tout à fait classique et une réponse positive assez rapidement. Ceci étant dit, Radio France avait déjà fait plusieurs demandes de visa ces derniers mois, un certain nombre qui ont toutes été rejetées. Concernant ma demande, je devais partir avec un collègue technicien de reportage parce que c'est comme ça qu'on procède sur ce genre de mission. Lui a été refusé par exemple. On ne sait pas pourquoi exactement on est accepté ou refusé. À ma connaissance, aucun autre journaliste français n'a été accrédité pour ces élections-là. Il y a eu d'autres demandes, d'autres médias, bien sûr. Et au niveau de la presse étrangère, il y avait un peu une équipe de médias par pays. Il y avait la télévision italienne, il y avait un journal japonais, il y avait même les Américains de CNN qui avaient attendu 3 ans pour avoir un visa, la BBC. Bref, mais c'était une représentation assez limitée. C'est sûr que le pays est beaucoup plus fermé depuis les manifestations de 2022. Il l'était déjà un peu plus depuis l'élection en fait d'Ebrahim Raisi en 2021 à la présidence, le retour des conservateurs, voire ultra-conservateurs au pouvoir. Un pays donc, oui, qui se referme, mais qui laisse passer parfois des journalistes pour certaines occasions. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui commande leur décision.
Sur place, les Iraniens, les Iraniennes étaient peut-être surpris de voir à nouveau des journalistes étrangers les interroger. Est-ce que vous avez eu l'impression que les gens, et en particulier ceux qui avaient été critiques du régime, avaient peur de s'exprimer et de vous parler, ou bien au contraire que c'était une opportunité et qu'ils étaient heureux de le faire ?
Peut-être un peu des deux. Il y a bien sûr des gens qui ont refusé de nous parler quand on les abordait dans la rue, par exemple. Maintenant, je ne saurais pas vous dire si c'est parce qu'ils étaient vraiment pressés d'aller quelque part, comme ils nous le disaient, ou s'ils avaient peur de répondre. On a eu quand même beaucoup de témoignages. Pour certains assez radicaux, assez hostiles au régime, assez libres, en plein jour, en pleine rue, de gens qui, en effet, au premier abord, pouvaient penser qu'on représentait un média iranien, parce que j'étais bien sûr accompagné d'une traductrice pour aborder les gens, et qui refusait dans un premier temps de répondre, et qui, comprenant que c'était un média étranger, l'a accepté de répondre. Donc, pour certains, ils étaient surpris de voir des journalistes étrangers présents. C'était plutôt, sincèrement, moi qui étais surpris de, parfois, la liberté avec laquelle ils répondaient, le courage qu'ils avaient de tenir les propos qu'ils ont tenus.
Vous parliez tout à l'heure de cette jeune étudiante qui a été arrêtée et qui ne peut pas encore parler de ce qu'elle a vécu lorsqu'elle a été arrêtée. Elle évoque la cruauté des forces de l'ordre. Est-ce que, d'une manière générale, vous avez eu l'impression que la population, en particulier la jeunesse, était encore sous le choc de la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté ?
Oui, je saurais pas vous dire à quel point, parce que, par exemple, je n'ai pas interviewé de familles de victimes de la répression. C'est aussi un choix quand on va sur place de prendre certaines précautions. On sait aussi dans quelle situation on peut risquer de franchir une certaine ligne rouge. On sait aussi qu'on est assez surveillé malgré tout. Il y a des gens qui tiennent à informer les autorités de où on est, dans quel quartier, sur quel sujet,
qui
en
vous
permanence,
voyez.
Qui on voit. On sait qu'on ne peut pas prendre certains rendez-vous de certaines manières, etc. etc. Qu'on prend nos précautions. Maintenant, oui, il y a un choc. Il y a, par exemple, un homme âgé qui a vu une de nos interviews devant l'université, qui s'est approché de lui-même. Moi, sur le coup, j'ai pensé qu'il allait peut-être trouver quelque chose à redire au discours des étudiantes un petit peu radical. En fait, pas du tout. Il est venu, il était assez ému, les larmes aux yeux, dire il faut qu'on arrête de tirer sur les jeunes, il faut qu'on les traite avec tolérance, il faut qu'on écoute leurs revendications et il faut qu'on partage les richesses de ce pays avec cette jeunesse qui parfois a du mal à trouver du travail, a des problèmes économiques.
Qu'est-ce qui reste du mouvement Femmes, Vie, Liberté aujourd'hui en Iran et en particulier à Téhéran ?
Alors plus de manifestations à ma connaissance en ce moment, cette abstention aux élections, ça fait sans doute partie, même si c'est quelque chose qui était initié plus tôt, des restes de cette mobilisation. Il reste surtout, en tout cas dans cette jeunesse qui s'est mobilisée, la volonté de ne plus faire partie, presque un sécessionnisme, de plus donner aucun crédit au pouvoir, un régime qui ne reconnaisse plus, des élections auxquelles il veut pas participer. Et puis, c'est aussi visible sur la question du voile, par exemple, dans les quartiers aisés de Téhéran, au nord de la ville, il y a peu de jeunes filles qui portent le voile. même un petit peu. C'est-à-dire, c'est assez frappant. La majorité dans certains quartiers, je pense surtout des jeunes femmes, disons la vingtaine, ne portent pas le voile. Une partie porte le voile de manière, on va dire, très peu stricte, en laissant apparaître beaucoup ses cheveux. Dans le reste de la ville, c'est différent, c'est cantonné peut-être à certains quartiers, mais...
Des quartiers plutôt aisés, c'est ça ?
Oui, des quartiers plutôt aisés. Et on parle de la population féminine, la partie la plus jeune, on va dire. C'est pas le cas dans d'autres quartiers de Téhéran, c'est pas le cas sur certaines grandes places du centre-ville. Mais pour ces jeunes femmes-là, et on leur a aussi parlé, c'est une volonté de pas revenir en arrière.
Une de ces jeunes femmes que vous rencontrez, notamment pour le Zoom de la rédaction qui a été diffusé sur France Inter, elle se promène tête nue dans l'espace public, mais elle vous dit, je la cite, que cette liberté n'existe pas.
Oui, c'est-à-dire elle l'apprend, mais elle a peur d'être arrêtée. Elle porte toujours un foulard autour du cou au cas où, un peu comme une écharpe. Et elle nous dit... voilà, je le fais, mais j'ai peur des patrouilles de la police. D'ailleurs, pendant qu'on était en train de réaliser cette interview, une patrouille est passée pas très loin dans la rue. Heureusement, ne s'est pas arrêtée particulièrement. Mais voilà, c'est une liberté qu'elle prend. C'est une liberté qui, objectivement, n'est pas dans la loi. Ce n'est pas la ligne du régime.
En tout cas, du côté du régime, on vous soutient que la République islamique fait preuve d'une certaine tolérance.
Si on appliquait strictement la loi sur le voile, on devrait punir beaucoup de femmes qui ne s'habillent pas selon les règles islamiques. Mais la République islamique ne le fait pas. Aucun État dans le monde ne reste silencieux face à l'extrémisme et la violence. Pour avoir plus de liberté, il faut rester dans le cadre légal. La liberté au-delà de la loi, c'est l'anarchie.
Cette femme qu'on vient d'entendre, c'est la conseillère du président chargée des droits et libertés civiles, Timur Öztürk, qui est cette femme et que signifie être chargée des droits et libertés civiles aujourd'hui en Iran ?
C'est une bonne question. Alors cette femme, elle est avocate de profession, elle a été nommée après le mouvement de 2022. C'est une conservatrice, a priori, qui... Et pourtant, parfois, assez ouverte sur certaines questions. Par exemple, il y a un phénomène depuis le mouvement de 2022, il y a des voitures de conductrices qui sont saisies parce qu'elles ont été dénoncées, parce qu'elles ne portent pas le voile au volant. Au bout de plusieurs dénonciations, la voiture est saisie, bloquée sur un parking, il faut potentiellement payer une amende, etc. etc. Et cette femme, cette conseillère du président, disait que dans certains cas, dans certaines régions, il y avait des abus, des policiers à qui on n'avait pas demandé de procéder à des arrestations qui le faisait et qu'elle trouvait que ça allait trop loin, qui pouvait dire que par ailleurs, la loi sur le port du voile, bien sûr, c'était obligatoire, mais qu'une femme qui y contrevenait, dans le cadre d'un processus judiciaire, devait voir ses droits respectés. Donc, voilà, une sorte de milieu entre la sévérité des lois du pays, une sorte de réalisme aussi sur ce qu'est finalement la réalité de la pratique, par exemple, du port du voile dans le pays, de la tension qu'il y a autour de ces questions. Je pense que le régime n'a pas envie de déclencher un nouveau mouvement avec un incident qui aurait lieu si la police était par exemple trop sévère.
Des tensions, il y en a aussi sur le plan de la situation économique et sociale. Les Iraniens sont durement touchés par l'inflation et le chômage. Comment avez-vous perçu les effets de cette crise économique et sociale à Téhéran ?
C'est assez visible. On parle d'une inflation, les derniers chiffres en inflation annuelle, on est à 36% à peu près en février dernier. Et c'est pas une inflation nouvelle, donc il y a déjà une certaine accumulation. Il y a la monnaie nationale, le rial, qui est en chute libre. Le point de départ de cette crise économique, c'est clairement le retrait de Donald Trump unilatéral de l'accord sur le nucléaire en 2018 et le fait que l'Union européenne s'est couchée d'une certaine manière face à la décision américaine, qu'aucune solution n'a été donnée à l'Iran. Alors qu'elle respectait cet accord. Depuis, oui, il y a des sanctions, peut-être les plus dures, qui ont jamais été prises contre le pays, sur toute une série de choses, les exportations, etc. Bien sûr, les cartes de crédit internationales ne fonctionnent pas, il y a moins de tourisme, voire presque plus du tout. Donc ça se voit, par exemple, devant les bureaux de change, on a des spéculateurs, on les appelle comme ça, qui vont changer de l'argent, parce que les Iraniens n'ont pas le droit de changer au-delà d'une certaine somme par an en devises étrangères. Donc il y a un marché noir qui se développe autour autour de ça qui est complètement toléré de fait. On le voit aussi parce que c'est bientôt le nouvel an perse, Nowruz, avec des fêtes,
qui occasionne certaines dépenses pour les familles.
Et donc on voit dans certains quartiers des grosses courses qui sont faites au moins cher auprès de grossistes, etc.
Et puis il y a ces clients comme cette jeune femme qui vient acheter des euros au marché noir pour financer son projet d'émigration en Allemagne. برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی عصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای غصای اعصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن Pour danser dans la rue, pour ne plus avoir peur de s'embrasser, pour ma sœur, la tienne, les nôtres, pour le regret de ne pas avoir une vie ordinaire, pour ce paradis imposé, pour femme, vie, liberté. Extrait des paroles de Baraï, la chanson devenue hymne de la révolte iranienne. Qui est son compositeur, cher Vinagy, pour Timur Öztürk, et que devient-il ?
Bah c'est cette chanson qui est devenue donc l'hymne du mouvement Femme Vie Liberté. C'est un jeune chanteur de pop iranienne. Il a été condamné à peu près en même temps que les élections à 3 ans de prison pour incitation et provocation à des émeutes visant à perturber la sécurité nationale. Il a aussi été condamné à 8 mois de prison pour propagande contre le régime. Il va être interdit à sa sortie de prison pendant 2 ans de quitter le territoire. Et puis on lui demande de composer et de chanter un chant anti-américain pour punition.
Merci. Merci beaucoup, Timur Öztürk, d'être passé dans Culture Monde. Vos reportages en Iran et notamment le zoom de la rédaction consacrée à la jeunesse qui ne veut plus de voile, eh bien, c'est à réécouter sur France Inter. Il est 11h20 et vous écoutez Culture Monde, direction à présent le Portugal.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Nous avons accompli un travail extraordinaire au cours des 8 dernières années, mais cela ne suffit pas. Et nous devons prendre conscience qu'il y a des Portugais mécontents, que des Portugais ont l'impression que leur situation se dégrade. Nous devons en prendre conscience et ne pas pointer du doigt ceux qui sont en colère contre nous et qui se sont même éloignés de nous. Ceux qui pensent que la solution réside dans des partis populistes, xénophobes ou racistes.
Eu hoje quero dirigir-me de forma direta.
Aujourd'hui, je veux m'adresser directement et particulièrement aux électeurs qui ont déjà voté ou qui ont l'intention de voter pour Chega. Je pense que le Portugal en a eu assez du socialisme et que cela suffit. Je respecte ceux qui ont ressenti cette idée de donner de la force à ce parti.
Pour l'instant, je ne me bats pas pour faire partie d'une coalition, mais je me bats pour diriger cette coalition. Nous pouvons pour la première fois remettre en question la domination de 2 partis alliés. Mais nous voulons arriver les premiers et nous pensons que c'est possible.
Extrait des discours des dirigeants des trois principales forces politiques en compétition pour les élections législatives qui se tiennent ce dimanche au Portugal. Le socialiste Pedro Nuno Santos, ancien ministre du gouvernement sortant, Luis Montenegro, dirigeant du Parti social-démocrate de centre droit, et enfin André Ventura, leader de Chega, le parti d'extrême droite créé en 2019. Si les deux partis traditionnels qui se partagent le pouvoir depuis la révolution démocratique de 1974 dominent toujours le paysage politique, aucun ne semble en mesure de dégager une majorité absolue et de nombreuses incertitudes planent sur ce scrutin. Et on commence avec vous, Marc Semo.
Merci Mélanie. Alors, le Portugal, c'est la revanche de ce que les Allemands et autres pays dits radins de l'Europe du Nord appelaient les pays du Club Med, ces États jugés trop dépensiers du Sud. Leur croissance est désormais nettement plus dynamique que celle de l'Allemagne, des Pays-Bas ou de la Finlande. C'est vrai en Espagne comme en Grèce, mais c'est le Portugal qui incarne le mieux cette revanche des anciens cancres. Son PIB a augmenté l'an dernier de 2,2%, alors que celui de l'Allemagne a reculé de 0,3%. Et surtout, le Portugal enregistrait même un excédent public primaire, c'est-à-dire avant le paiement des intérêts de la dette, de l'ordre de 3,5%, de quoi faire envie à la France, qui reste toujours largement en déficit. Mieux, la dette publique du Portugal est passée sous la barre des 100% du PIB fin 2023. Alors, le grand boom touristique de l'après-pandémie explique en partie ces bons résultats. À cela s'ajoutent les crédits et subventions octroyés par le plan de relance européen de l'après-Covid. Mais cela n'explique pas tout. La politique d'austérité après la crise de 2008 a été rude, mais les socialistes d'Antonio Costa, arrivant au pouvoir il y a 8 ans, ont su ensuite atténuer leurs conséquences sociales sans pour autant relancer la gabegie. Le modèle portugais, c'est aussi, voire d'abord, du pragmatisme politique. Mais des fragilités demeurent, à commencer par une population vieillissante, une natalité à la peine et des investissements extérieurs insuffisants. Et en outre, au Portugal, comme ailleurs en Europe, le populisme monte, notamment parmi les jeunes.
Merci beaucoup Marc Semo pour cette introduction. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Yves Léonard et de Victor Pereira qui nous a rejoint depuis Lisbonne. Yves Léonard, je voudrais qu'on commence par rappeler quelques éléments de contexte, puisque ces législatives sont des élections anticipées. Elles n'étaient pas prévues avant au moins 2 ans. Et elles se tiennent à la suite de la dissolution du Parlement par le président de la République. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement pourquoi le président a décidé de dissoudre le Parlement ?
C'est une bonne question parce que ces élections anticipées, c'est les deuxièmes en fait. Il y en a eu une précédente il y a 2 ans. Elles étaient déjà anticipées parce que le budget à l'époque avait été bloqué. Et là, cette fois-ci, la question qui s'est posée, c'est que le Premier ministre, dont le nom avait été évoqué dans des affaires de corruption, soupçonné de prise illégale d'intérêt avec son directeur de cabinet, etc., il a tout de suite annoncé sa démission quand il a eu vent de cette affaire. Il a dit « c'est incompatible avec l'exercice de mes fonctions » et se posait la question de savoir si qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que le président de la République avait 2 solutions. Soit il procédait à la dissolution de l'Assemblée, soit il nommait un nouveau Premier ministre ou une nouveau Premier ministre issu de la majorité absolue dont disposait le Parti Socialiste à l'Assemblée. Et la solution qui a été retenue par le président, par le chef de l'État, comme la Constitution lui en donne la possibilité, c'est de faire ces élections anticipées. Autrement dit, de demander aux électeurs de se prononcer, le peuple souverain en quelque sorte, mais de se prononcer avec une toile de fond qui est celle d'affaires de corruption à répétition, un climat délétère qui avait eu tout au long de l'année 2023, et donc aux électeurs de se prononcer sur un dossier qui n'est pas instruit. C'est-à-dire que le temps judiciaire, le temps politique et le temps médiatique, c'est la discordance des temps. Et à partir de là, évidemment, il y a un certain nombre de questions qui se posent, parce que ça intervient dans un contexte affaire de corruption non solutionnée, et derrière le 50e anniversaire de la révolution des œillets dans quelques jours. Donc c'est un contexte très très particulier, et c'est un choix qui a été fait par le chef de l'État, alors que le Conseil d'État, qui avait été contacté, avait donné un avis très partagé.
Et pour complexifier un peu la situation, Victor Pereira, il faut aussi rappeler que il y a quelques mois, on découvrait certaines failles dans l'enquête qui a été menée par la justice, pas des moindres, puisque il y a eu confusion par les enquêteurs entre le ministre de l'économie Antonio Costa Silva et le premier ministre qui porte un patronyme presque similaire, Antonio Costa, et donc que finalement, d'une certaine manière, le premier ministre Antonio Costa n'était pas pas directement visés, impliqués, soupçonnés dans ces affaires de corruption, de trafic d'influence. Quelle réaction au Portugal cette erreur a provoqué à la fois dans la classe politique, dans les médias, dans l'opinion publique ?
Tout à fait. Lors des écoutes judiciaires, on s'est rendu compte qu'il y avait une confusion entre le Premier ministre et le ministre de l'économie et que donc certaines des accusations semblaient tomber à l'eau. Mais d'un autre côté, dans les journées qui ont précédé la démission, ou quasiment la même journée, on a découvert, la police a découvert dans le palais de São Bento, donc le Matignon portugais, 75 000 euros cachés dans la bibliothèque du directeur de cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre a bien évidemment dit qu'il n'était pas au courant et qu'il condamnait ce type de pratique, le fait d'avoir autant d'argent liquide et pour quelles raisons, ça n'a pas encore été éclairci. Mais il y a néanmoins, au sein de l'opinion publique, l'idée qu'il y a eu une dissolution. Et que peut-être le Premier ministre n'était peut-être pas aussi coupable qu'il pouvait sembler en premier abord. Néanmoins, comme vient de le rappeler Yves Léonard, dans l'année 2023, il y a eu différentes affaires de corruption ou de suspicion de corruption qui ont cadré cette affaire des écoutes et de cette référence à Antonio Costa. Il avait une sorte de leg négatif d'avoir notamment soutenu ou nommé des personnes qui semblaient avoir des quelques problèmes avec la probité. Donc c'est dans ce cadre-là que sa démission est annoncée, même s'il se défend, et jusqu'à aujourd'hui, d'être accusé, coupable de quoi que ce soit, et il rappelle son innocence.
Antonio Costa, il faut le rappeler, c'est une figure majeure de la vie politique portugaise. Yves Léonard, il dirigeait le pays depuis 2015, le Parti Socialiste depuis 2014. Alors, il a donc démissionné et aussi déclaré qu'il quittait définitivement la vie politique. Est-ce que c'est une page qui se tourne au moins pour les socialistes, et en quoi voilà, Antonio Costa aura été une figure marquante de la vie politique contemporaine?
Alors, ça a été une figure marquante parce que, vous l'avez rappelé, il a repris le contrôle du Parti Socialiste en 2014, dans un contexte qui était compliqué, parce que le Parti Socialiste n'était plus au pouvoir en 2014, et il l'avait quitté en 2011, battu dans les élections, et surtout avec un Premier ministre, un ancien Premier ministre, José Sócrates, qui lui-même déjà était dans une spirale de suspicion. Et en 2014, il a d'ailleurs été incarcéré quelques mois, avec des chefs d'accusation assez flous, et ça, en toile de fond, il fallait redonner une image au Parti Socialiste, et le rôle de Costa, ça a été déjà de remettre le Parti Socialiste en situation de gouverner. Ensuite, le deuxième leg de Costa, ça a été d'imposer en 2015 une solution qui était assez inédite au Portugal, c'est-à-dire un parti qui est arrivé deuxième aux élections formellement, mais qui va former quand même le gouvernement avec le soutien de toute la gauche. Et ça aussi, 45 ans après la révolution des œillets, un peu plus de 40 ans après la révolution des œillets, c'était nouveau. S'allier avec le Parti communiste, c'était quelque chose d'insolite. Et puis la gauche plus radicale du bloc de gauche. Et il l'a fait fonctionner pendant plusieurs années, c'est ce qu'on a appelé, enfin ceux qui le dénigraient appelaient ça le machin, Jerry Gantz, mais ça a fonctionné jusqu'en 2019-2020. Donc c'est un homme d'une grande, à la fois habileté politique, d'un grand sens politique et aussi populaire. C'est quelqu'un qui sait parler, qui sait être apprécié. Et donc il a marqué les 8 années qui viennent de s'écouler, ça a été rappelé tout à l'heure dans l'éditorial, il y a eu cette capacité aussi à la fois à relancer la demande, à redonner du pouvoir d'achat, tout en respectant les engagements européens du Portugal. Et ça, je crois que les gens au Portugal, beaucoup lui en font crédit.
Ah, justement,
c'est sur ce point, parce que comment il a fait ? C'était a priori une quadrature du cercle. Ça a été, je pense, le seul pays de l'Union européenne où une gauche au pouvoir a continué une politique d'austérité tout en l'atténuant et en obtenant la caution de la gauche la plus radicale. Sans compter, effectivement, le passif historique des rapports avec le Parti communiste, où quand même, bon, même si la révolution des œillets, c'est il y a un demi-siècle, il est quand même resté des traces de ça.
C'est d'abord, je l'ai dit, l'habileté tacticienne de Costa au Portugal, hein, qui a su, il était ancien ministre des Affaires parlementaires, donc il connaît très bien le jeu politique au Parlement, donc il a été très très habile dans ses rapports avec les autres formations politiques. Avec la Commission européenne et Bruxelles, il a su faire passer un certain nombre de messages et gagner la confiance. Il avait un ministre des Finances, Mario Centeno, qui était considéré comme le Mozart de la finance, enfin quelqu'un de très brillant, et qui a su aussi, par un certain nombre de mesures, rassurer les autorités de Bruxelles et relancer également la croissance par la demande, en fait. C'est une alchimie assez compliquée. En plus, il a été servi par un contexte international qui était plutôt porteur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu des, notamment sur les prix de l'énergie, on est en 2015-2016, il y a eu des facteurs favorables. Je dirais un alignement des planètes dont il a su tirer profit.
Victor Pereira, sur la question de la situation économique et sociale, donc une croissance à 2,3%, un salaire minimum qui a considérablement augmenté, je crois, plus 50%. Sur les dernières années, donc un bilan plutôt positif qui semble avoir bénéficié aux Portugais. Et pourtant, on voit dans les sondages que le Parti Socialiste n'est pas en tête, hein, il est plutôt coude à coude avec la droite. Comment expliquer que les résultats économiques ne bénéficient pas, a priori, politiquement aux socialistes ?
Il y a une différence peut-être de perception. Il y a effectivement ces éléments macroéconomiques que vous avez rappelés depuis le début de cette séquence, la baisse du chômage très importante, la hausse du salaire minimum, la hausse du salaire médian. Mais il y a une chose qui a transformé la vie d'une partie de la population, et notamment la population qui vit dans les deux grandes villes du pays, Porto et Lisbonne, qui est la hausse exponentielle des loyers, la hausse exponentielle du coût de l'immobilier, des gens qui, du jour au lendemain, avec une nouvelle loi qui avait été votée sous le gouvernement de droite entre 2011 et 2015, des personnes qui avaient des loyers qui ont dû quitter leur logement, parfois depuis 10, 20, 30, 40 ans, parce que leur propriétaire avait désormais le droit d'augmenter, de doubler leur loyer. Et donc, il y a certes ces différents éléments, mais le coût de la vie est au-delà de l'inflation, que toute l'Europe connaît, notamment avec le prix de l'énergie. Beaucoup de Portugais, notamment sur les grandes villes, ont vu donc le changement de l'immobilier les a atteints, les a vulnérabilisés, et donc ça crée un grand mécontentement à la fois vis-à-vis du gouvernement de droite qui avait voté cette loi, mais aussi vis-à-vis du gouvernement de gauche qui, selon eux, n'a pas modifié cette loi. Et notamment, un des effets aussi qui explique cette hausse de l'immobilier, c'est ce qu'on a déjà dit là, hausse extrêmement importante du tourisme, mais d'un tourisme qui maintenant fonctionne en grande partie avec des applications que vous connaissez tous pour ce qu'on appelle au Portugal le logement local. C'est-à-dire que certains quartiers de Lisbonne ou de Porto se sont vidés littéralement, et ça s'est vu pendant la pandémie quand il n'y avait plus de touristes, les quartiers de Alfama, Molalia, qui sont des centres historiques que des milliers de millions de Français et d'Européens ont visités, se sont vidés leur population. Et d'autre part, une des voies qu'avait utilisé le gouvernement de droite et que le gouvernement socialiste n'a pas tout de suite modifié, c'était d'attirer les investisseurs étrangers. Et donc notamment ce qu'on appelait les golden visas, donc les visas dorés, d'attirer des personnes qui investiraient soit dans l'immobilier, soit en créant des entreprises. Et ça a été une des causes également de la hausse très importante des loyers de l'immobilier. Et donc une partie de la population, en dépit de ces données macroéconomiques que vous avez énoncées et qu'on peut répéter à l'envi, sentent que leur situation économique s'est dégradée et surtout qu'elle est devenue largement imprévisible. Une partie des gens qui sont locataires craignent toujours, à la fin de leur contrat, leur beau, que leur loyer va augmenter, qu'ils vont devoir quitter leur logement et s'éloigner de Lisbonne ou de Porto ou d'autres grandes villes. Donc ça, c'est ce qui explique en grande partie une certaine désaffection et mécontentement vis-à-vis du Parti Socialiste, en dépit de ces résultats qu'on pourrait considérer comme prometteur ou comme une réussite économique et financière.
Alors ce mécontentement, comment résonne-t-il dans la campagne électorale et comment est-il récupéré par certains politiques ? Je voudrais évidemment qu'on parle aussi du parti Chega, donc qui signifie « ça suffit hein, », il me semble, porté par André Ventura, qui a été créé en 2019, donc qui est assez récent, qui est aujourd'hui crédité autour de 12%, mais je crois qu'au début de la campagne, il frôlait les 20%, 17-20%. Est-ce que Chega essaie de capitaliser sur ce mécontentement économique, ou bien est-ce qu'il est davantage, comme il semblerait à travers la presse, être plus sur des thèmes comme l'immigration, l'insécurité, qui ont l'air d'être très très présents dans son discours?
Oui, effectivement, les carburants principaux de Chega, comme la plupart des formations similaires en Europe, hein, d'extrême droite ou droite radicale populiste, c'est les questions migratoires, la question de l'immigration. Alors au Portugal, il y a un bémol, c'est parce que ça fonctionne un peu moins bien ce discours-là, parce qu'il y a une tradition migratoire plus importante au Portugal, une tolérance, un intérêt plus marqué pour justement l'accueil que dans d'autres pays européens. Mais ça fait partie de ce discours nativiste, on va dire, qui essaye de rétracter, de restreindre la nationalité portugaise à une certaine partie de la population, donc très critique par rapport aux binationaux, à tous ces phénomènes. Donc ça, Chega l'utilise énormément avec un discours xénophobe, volontiers xénophobe et raciste, à l'encontre de populations, les tziganes, etc. Ça a commencé comme ça. Donc ça, c'est un discours qui est très très prononcé. Le deuxième grand carburant de Chega, et dans le contexte actuel, évidemment, c'est assez problématique, c'est la question de la corruption, c'est-à-dire un discours anti-système à destination, à l'encontre des élites, qu'elles soient celles du Parti Socialiste qui est au gouvernement, soit du PSD, pour dire, voilà, ils nous dirigent depuis 40 ans, et voilà où on en est avec cette corruption généralisée, et les affaires qu'on vient d'évoquer, évidemment, alimentent ceci. Donc, ça, c'est véritablement les deux carburants. Après, sur les questions économiques et sociales, on est souvent dans une approche assez populiste de la part de Chega, avec, et ça a été relevé pendant la campagne, cette capacité à promettre tout et à peu près n'importe quoi, de manière assez peu cohérente, avec un discours quand même très néolibéral hein, derrière, c'est-à-dire d'acceptation d'un certain nombre de fondamentaux. On voit bien qu'il n'y a pas une remise en question radicale de tout ça. Simplement, sur la question européenne aussi, cette volonté d'ériger une Europe des nations, comme on l'entend beaucoup dans les partis similaires, modulée par le fait que le Portugal est très dépendant et a un sentiment européiste plutôt supérieur à la moyenne européenne en Europe. Et donc, ils se rendent bien compte aussi qu'un discours très violemment critique à l'égard de Bruxelles n'est pas tellement efficace. Donc, vous voyez, c'est une espèce de... Il y a une certaine plasticité une fois qu'on est sorti des fondamentaux qu'on a rappelés au début.
Marc Semo ?
Oui, alors, si on doit situer Chega dans ces extrêmes droites populistes, par rapport notamment à un parti comme Vox en Espagne, ils sont plus radicaux, ils vont plus vers le RN et l'AFD, par exemple au niveau du regroupement du Parlement européen, ou plus du côté genre Giorgia Meloni en Italie, mais et ce que fait Vox. Et est-ce qu'il y a aussi, comme en Espagne, un facteur de générationnel aussi d'oubli, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont les plus tentés par Vox, sont aussi ceux qui n'ont qu'une vague idée, voire très vague, de ce que fut Salazar.
Yves Léonard, pardon, et puis Victor Pereira.
Je rebondirai sur la dernière partie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce phénomène d'oubli qui est en train de jouer, plus le temps passe, et ces deux partis, Vox et Chega, notamment au Portugal, sont des partis où l'électorat, enfin, les jeunes, sont très sensibles au discours de Chega. Il y a une dimension très moderne, 2.0, comme on a dit, c'est-à-dire axée sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., TikTok, ils sont très très présents sur les réseaux sociaux, et les jeunes adhèrent assez bien à ce type de démarche, parce que effectivement il y a un peu cet oubli qui joue. Ensuite, très rapidement, et puis Victor complétera parce que il est sur place aussi, il y a cette dimension de la radicalité. Ils ont un terreau assez commun avec Vox. Hein. D'abord, les deux leaders viennent de la droite classique.
Ce sont des transfuges,
l'un comme l'autre, hein, Pascal et Ventura viennent, l'un du Parti Populaire, l'autre du PSD de centre-droite. Donc, ils ont un peu la même genèse, la même origine, et je dirais le même opportunisme politique qui consistait à dresser un constat assez critique à l'égard de leur formation d'origine pour mieux accéder à des responsabilités et faire un parcours beaucoup plus rapide en surfant un petit peu sur cette vague populiste, radicale populiste de droite qu'on a observée un peu partout en Europe.
Victor Pereira, vous confirmez que Chega a une popularité particulière auprès des jeunes, et si oui, comment l'expliquer? Quel argumentaire mobilise-t-il qui résonne pour la jeunesse portugaise?
Oui, les différents sondages, avec toutes les limites qu'on leur connaît, montrent bien que c'est plutôt les jeunes qui sont tentés par le vote Chega, tandis que notamment les électeurs plus âgés, eux, votent plutôt pour le Parti Socialiste qui serait le plus à même à défendre les différents acquis sociaux obtenus ces dernières années. Il y a un élément qui est très important pour comprendre Chega et son développement ces dernières années, c'est que la démocratie portugaise n'allait pas extrêmement bien jusqu'en 2019. Un des indicateurs qui est extrêmement important, c'est que depuis les années 90, le taux d'abstention à chaque élection avoisine les 40%. Et les différentes enquêtes réalisées montraient qu'une partie des électeurs, d'une part, considéraient que les élites politiques défendaient plus leurs intérêts que les intérêts de la nation et évoquaient les cas de corruption. Donc il y avait une très forte méfiance de la population vis-à-vis de leurs élites politiques. Et d'autre part, certaines enquêtes montraient ces dernières années que tout en se disant démocrate, et notamment en soutenant la démocratie née le 25 avril, certains défendaient une figure forte, un exécutif fort, et étaient critiques du parlementarisme. Et c'est un peu cette figure que tente de représenter Ventura, qui est de celui qui, d'un homme fort, qui prend des décisions, qui ne s'embarrasse pas du Parlement et qui veut fonder une quatrième république, dit-il, sur ses éléments sur un exécutif fort. Et donc, c'est des jeunes qui n'ont évidemment pas connu la dictature, qui sont nés bien après le 25 avril, qu'il y a un certain terreau favorable, mais qui, encore une fois, c'est aussi un des éléments qui rend tout sondage extrêmement difficile, parce qu'une partie de l'électorat de Chega vient de l'abstention, et il est difficile de savoir si ces assemptionnistes vont modifier leur comportement et voter, et notamment voter pour ce parti d'extrême droite.
Victor Pereira, comment André Ventura se situe par rapport au passé dictatorial, par rapport à cette mémoire, par rapport à la révolution de 1974? Est-ce qu'il a des prises de position qui peuvent frôler avec de la nostalgie ou du révisionnisme, comme on a pu le voir dans d'autres partis européens comme Vox par rapport au franquisme, ou comme le parti de Giorgia Meloni par rapport à Mussolini? Est-ce que on a un peu ce même phénomène de distiller des messages qui renvoient qui essayent de toucher les nostalgiques de cette époque?
Il distille des messages tout en étant relativement prudent. C'est-à-dire les quelques fois où il a évoqué Salazar, il a pris ses distances, notamment ses distances vis-à-vis d'un Salazar qui aurait empêché le développement économique du Portugal et qui serait une des causes du retard du Portugal au niveau économique. Ça, il a déjà mis ses distances. Mais d'un autre côté, il reprend des valeurs du salazarisme, mais qui ont très largement dépassé les frontières de l'extrême droite. D'une part, toutes les valeurs de travail, famille, patrie, qu'on connaît notamment en France avec un autre régime. Et aussi, et là où ça dépasse les frontières de l'extrême droite, un discours très critique vis-à-vis de la révolution des œillets sur son versant colonial. C'est-à-dire que le Portugal, après 1974, connaît un processus de décolonisation et qui est marqué notamment par le retour ou l'arrivée au Portugal métropolitain d'environ 600 000 retournages, dont la traduction pourrait être pieds noirs. Et il a à plusieurs reprises évoqué ces pieds noirs qui auraient tout perdu, qui n'auraient pas été défendus. Et il est extrêmement soucieux de défendre un imaginaire impérial et en critiquant notamment... Ils aiment bien apporter des paniques morales qui viennent d'autres pays, notamment contre le wokisme, disent-ils, et notamment tout ce qui flétrirait le passé glorieux du Portugal, de Vasco de Gama, jusqu'aux guerres coloniales de 1961-1974. Donc sur ça, il touche évidemment un électorat nostalgique, si ce n'est de la dictature, du Portugal impérial pré-74, qui considérait avoir donné des mondes au monde et qui considérait avoir été un grand pays. Et ça, c'est un élément qui joue, mais qu'on ne retrouve pas que à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'une partie de la droite traditionnelle a toujours une vision très positive du colonialisme, et au Portugal, les critiques du colonialisme sont pas toujours faciles à développer dans le champ public.
Vous écoutez Culture Monde. Yves Léonard et Victor Pereira sont nos invités pour parler du Portugal qui s'apprête à renouveler ses députés ce dimanche sur fond de montée de l'extrême droite et de commémoration des 50 ans de la révolution des œillets. Et comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. C'est la bulle Cartooning.
Il fait le clown.
Mais
On a été créés pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Et le dessin de cette semaine nous vient du Portugal. Il est signé Cristina Sampaio, dite Cristina, et c'est un regard amusé et mordant sur les 50 ans de la révolution des œillets, une révolution qui fait rire Marc Semo, une révolution que beaucoup n'ont pas connue, tandis que ceux qui l'ont menée commencent à prendre de l'âge, à l'instar du personnage de Cristina, un jeune homme, tout d'abord au look 70s, pantalon évasé, barbe et cheveux longs, le bras levé, il fait le signe de la victoire, un œillet rouge fixé sur la poitrine. Le même, quelques années plus tard, cheveux plus courts, petite moustache, le bras levé un peu moins haut, un troisième marqué par quelques rides et dont le costume a remplacé le col roulé, et enfin, le dernier, le crâne dégarni, les cheveux blancs et dont l'œillet s'est transformé en cravate bien sage et bien propre. Un dessin à découvrir sur le fil Twitter de Culture Monde et sur la page internet de notre émission. Réaction, Yves Léonard.
Oui, non, mais c'est plein d'humour et puis ça traduit une certaine réalité, c'est-à-dire ça fait 50 ans, il y a une institutionnalisation, un embourgeoisement, on va dire, à travers ces images. C'est un peu la logique pour ceux qui sont passés du col Mao au Rotary Club, comme on disait à une époque. Il y a une effectivement, ça traduit ce phénomène avec l'un des enjeux qui tourne autour de la commémoration, c'est-à-dire faut que cette commémoration elle reste vivante, qu'elle intéresse justement beaucoup les jeunes, qu'elle ne soit pas simplement dans une forme de... C'est pas un mausolée, si vous voulez. Il faut que cette révolution, les œillets d'avril, continue d'avoir cette charge émotionnelle, cette force, et qu'elle ne soit pas simplement dans un rapport assez guindé, assez conformiste à un passé, finalement, qui apparaît sous le trait du dernier personnage.
Quoi. Vous dites, c'est l'enjeu, il faut que cette révolution parle à tous, mais quels moyens se donne aujourd'hui la société portugaise dans son ensemble et ses institutions pour rendre vivant cet héritage, Victor Pereira?
D'une part, depuis désormais un an et demi, il y a une commission pour les commémorations du 25 avril, dont l'action et l'activité durent depuis 2022 et ne va cesser qu'en 2026, pour fêter les 50 ans de la Constitution et des élections législatives, présidentielles et municipales. Et le discours notamment de la commissaire, qui est une historienne, Marina Cerezón, est effectivement de dire qu'il ne faut pas que le 25 avril n'est pas un mausolée, mais doit inciter la société portugaise à approfondir la démocratie, à accepter la diversité. Et donc il y a un discours du 25 avril aujourd'hui. Et un des slogans qui est souvent répété au Portugal, d'une part c'est 25 avril sempre, donc 25 avril toujours, c'est-à-dire que les idées, les valeurs du 25 avril doivent toujours être présentes, et c'est quelque chose qui est assez présent dans la campagne électorale, surtout à la gauche de la gauche, de dire comment, à la veille des 50 ans du 25 avril, un des acteurs politiques majeurs qui est désormais au cœur de tous les débats politiques et on vient de le voir au cours de cette émission, donc Chega, comment est-ce possible que l'extrême droite, 50 ans après, soit au cœur de l'actualité, et d'autre part, une exigence démocratique. C'est-à-dire que à gauche, souvent, c'est pour ça qu'on a fait le 25 avril, c'est-à-dire qu'il y a une exigence que, quelque part, tous les Portugais, tous les citoyens portugais sont un peu redevables de ces capitaines qui ont fait le 25 avril pour libérer la population, mais qu'il faut donc continuer au quotidien ce qui fait la beauté et la difficulté de la démocratie, c'est-à-dire d'accepter le conflit et d'essayer de trouver des solutions à des problèmes qui sont parfois difficiles.
Du côté du centre-droit, Yves Léonard, comment est-ce qu'on aborde ces commémorations? Comment est-ce qu'on se situe par rapport à l'héritage de la Révolution de 1974?
Alors, c'est toujours été un peu un problème, c'est-à-dire que une partie du centre droit, enfin des gens qui ont fondé notamment le parti, le PSD, le Parti Populaire Démocratique à l'époque, le PPD, je pense à des hommes comme Sá Carneiro, qui était la figure de proue jusqu'à sa disparition tragique en 1980, sont des hommes qui ont participé à la transition démocratique, même si eux avaient essayé, après le départ de Salazar, de faire la phase dite marcelliste, avaient cru à une adaptation possible possible du régime vers une forme de transition, un peu comme on le verra en Espagne, un peu plus négociée. Donc, leur matrice, leur fond de pensée, c'est bien sûr les valeurs d'avril, mais de manière assez, pas avec un enthousiasme débordant. Et dans le passé, on a vu lors de phases commémoratives que le PSD, lorsqu'il était au pouvoir, commémorait, certes, mais pas de manière emphatique, le 25 avril. Donc il y a une longue tradition de semi-réserve, ou du moins de diluer un petit peu l'effet 25 avril pour le remettre dans un contexte long et pour montrer que finalement ça peut-être pas été la césure ou la coupure épistémologique que beaucoup voient en 25 avril. Donc il y a cette tonalité qui joue encore fortement. Et puis il y a l'aiguillon Chega aujourd'hui, ça a été rappelé tout à l'heure. Chega est contre le 25 avril et donc on voit bien à travers le 25 avril, il y a eu une polémique ces derniers mois sur on commémore le 25 avril, mais il faut surtout commémorer le 25 novembre 1975, qui est la fin un peu du processus radical, le plus radical, des grandes incertitudes de l'été 75, radicalisation, le parti communiste, l'extrême gauche, etc. Et le 25 novembre marque la phase d'entrée dans la consolidation démocratique, comme on l'a appelé. Et c'est plutôt ça qu'il faudrait commémorer que le 25 avril. Or, c'est un continuum, c'est une entité. Ça va de 1974 à 1976, mais on voit bien à droite qu'il y a cette tonalité qui est présente de plus en plus, aiguillonnée par Chega.
Et qui risque de aujourd'hui d'être cette tension-là d'être réactualisée dans l'après-élection législative là de ce dimanche, puisque si chacun des deux grands partis font un score reste au coude à coude autour de 20-25%, se posera la question d'une potentielle alliance de la droite et de l'extrême droite. Chega le souhaite, ils l'ont dit. Du côté de la droite, on dit non. Pour l'instant, on reste très 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 prudent, mais Luis Montenegro aura-t-il vraiment le choix, Victor Pereira ?
Effectivement, les deux principaux partis sont coude à coude. Ils n'ont aucun des deux ne pourra avoir de majorité absolue seul, comme l'avait obtenu le Parti socialiste aux dernières élections. Et Luis Montenegro, donc le secrétaire général du Parti socialiste démocrate, refuse toute idée d'accord post-électoral avec Chega, disant qu'il ne pense pas à des scénarios de défaite, qu'il espère gagner les élections. Mais la question se pose, et notamment Ventura se donne un malin plaisir à dire que au sein du Parti social-démocrate, certains sont d'accord et lui ont donné des garanties de coalition post-électorale, et que cette coalition post-électorale Chega-PSD se ferait peut-être au détriment de Montenegro. Donc, on est sur une posture un peu différente de celle d'autres partis d'extrême droite européens qui refusent toute compromission avec la droite dite traditionnelle. Et là, actuellement, les sondages qui au Portugal ne sont pas toujours très fiables, comme dans d'autres pays, ne donnent pas une majorité au PSD et avec un autre parti de droite libérale, donc l'Initiative libérale. Et donc la grande question va être de savoir si il y aura un accord post-électoral avec Chega, si cela permet d'avoir une majorité à l'Assemblée, et si comment va se transformer le PSD s'il accepte un accord avec Chega. Est-ce qu'il risque pas de, comme il s'est produit avec d'autres partis de droite en Europe, de disparaître sous les coups de boutoir de l'extrême droite populiste?
Eh bien, merci beaucoup pour ces analyses, les résultats des élections législatives au Portugal. On les suivra attentivement à partir de dimanche. Merci Yves Léonard. Je rappelle pour vous Histoire de la nation portugaise chez Talendier, et puis apparaître le 18 avril Salazar, le dictateur énigmatique chez Perrin. Victor Pereira, vous avez co-dirigé avec Christophe Roux et Marie-Hélène Savillas-Boa le Portugal depuis la révolution des œillets. C'était chez L'Harmattan. Et puis, c'est le peuple qui commande la révolution des œillets 74-76 aux éditions du Détour. Merci beaucoup, Marc Semo. On se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, eh bien, c'est Julie Gacon que vous retrouverez pour une nouvelle série sur les élections européennes qui se tiendront en juin. Nous irons dans 4 pays comprendre quels sont les enjeux de ces élections, surtout comment les partis de droite radicale pourraient en profiter pour se renforcer. Hongrie, Pays-Bas, Suède, et on commence lundi avec l'Allemagne. Et dans un instant, les midis de culture.